retired Army General Lloyd Austin, who now serves on the board of Raytheon.
America is strongest when it works with its allies. And over the years, I've worked hand in hand with our diplomatic colleagues and partners around the globe and witnessed firsthand what we're able to accomplish together.
If confirmed, General Austin will become the nation's first black defense secretary, but it remains unclear if he'll be able to secure a needed waiver from Congress due to laws designed to preserve the civilian control of the military. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. An advisory committee of U.S. vaccine experts voted Thursday to recommend emergency use authorization of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, with the Food and Drug Administration poised to issue its approval Saturday. Once that comes, some 2.9 million doses will be shipped to sites across the United States, with the initial limited supply of the vaccine rationed for healthcare workers and nursing home residents. On Thursday, the U.S. recorded another staggering toll from COVID-19, with over 224,000 new infections and nearly 3,000 deaths. Robert Redford, director of the Centers for Disease Control and Prevention, warned for the next 60 to 90 days, the U.S. will likely see more COVID-19 deaths per day than the number of people killed in the September 11th attacks.
It's also very sobering to realize that in the United States today, that COVID-19 now is the leading cause of death, surpassing heart disease.
That was Robert Redfield. Meanwhile, a CDC official told lawmakers earlier this week she was instructed by CDC Director Robert Redfield to delete an email from the Trump administration, which sought to alter a scientific report on the risks of COVID-19 to children in order to better match Trump's messaging on reopening schools. In New Hampshire, an autopsy reveals State House Speaker Dick Hinch, a Republican, died of COVID-19 Wednesday. His death came 1 week after he was sworn in as New Hampshire's top lawmaker at a December 2nd ceremony. The event was attended by several Republican lawmakers who revealed just 1 day prior that they'd tested positive for coronavirus after attending an indoor meeting in late November where many people refused to wear masks. New Hampshire State Representative and ophthalmologist Dr. William Marsh blasted fellow Republicans, tweeting, quote, "Those in our caucus who refuse to take precautions are responsible for Dick Hinch's death," he said. New Hampshire Republican Governor Chris Sununu also criticized members of his own party Thursday.
You don't wear a mask and social distance just for yourself. You do it for those you're surrounding yourself with. And for those who are out there doing just the opposite, just to make some sort of bizarre political point, it's horribly irresponsible. It really is. And it's it has horrible consequences.
The Labor Department reports nearly 1.4 million U.S. workers filed for initial unemployment assistance last week, a sharp rise from the previous week, as the worsening pandemic continues to hammer the U.S. economy. The latest figures come as 12 million unemployed people are set to lose all their benefits at the end of December, and about 19 million people are currently unable to pay their rent, with the CDC's moratorium on evictions set to expire on New Year's Day. The Washington Post reports a sharp rise in hunger and homelessness across the United States has led to a spike in shoplifting, with staple foods like bread, pasta, and baby formula in heavy demand. On Capitol Hill, Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell Thursday rejected a bipartisan framework on a pared-down $908 billion coronavirus relief bill, saying it does not provide enough liability protection for corporations whose workers or customers became infected with COVID-19. Vermont Senator Bernie Sanders blasted Republican lawmakers for failing to provide for Americans in desperate need of assistance. Sanders introduced an amendment to a spending bill that would provide a $1,200 stimulus check to every working-class U.S. adult and an additional $500 for each child. Congress must pass the spending bill by midnight tonight to avoid a federal government shutdown. Sanders spoke from the Senate floor Thursday.
At a time when so many American families are suffering, when so many people don't know how they're going to feed their kids or prevent being evicted from their homes, or how they're going to pay for a doctor's visit, we cannot leave Washington and return to our families unless we address the economic suffering that so many other families are facing.
Morocco and Israel have agreed to establish diplomatic relations as part of a U.S. brokered deal. Morocco becomes the fourth Arab nation to establish ties with Israel since August. As part of the deal, the United States agreed to become the first country in the world to recognize Morocco's sovereignty over occupied Western Sahara, what many consider to be Africa's last colony. Morocco's occupied much of the resource-rich territory since 1975 in defiance of the United Nations and the international community. Thousands have been tortured, imprisoned, killed, and disappeared while resisting the Moroccan occupation. After headlines, we'll get a response to the Morocco-Israel agreement from leading Palestinian and Sahrawi figures and go inside occupied Western Sahara. Azerbaijan's military held a massive parade in the capital, Baku, on Thursday, celebrating its victory over Armenian forces in the Gorno-Karabakh region. Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who backed Azerbaijan in the war, was on hand for the parade, which featured a display of Turkish armed drones. Human Rights Watch and Amnesty International report both Azeri and Armenian troops committed war crimes during the six-week conflict, with evidence of extrajudicial executions, beheadings, torture, and the desecration of the bodies of slain soldiers. Back in the United States, President-elect Joe Biden told civil rights leaders in a private conference call Tuesday that he would use his executive authority to undo many of President Trump's actions, but would not take executive action to implement a progressive agenda. An audio of the call leaked to The Intercept. Biden said using his executive powers to enact policies like a ban on assault rifles would be way beyond the bounds of his constitutional authority. Biden also asked civil rights leaders not to pursue campaigns to transform police in the United States until after twin Senate runoff elections to be held in Georgia January 5th, which will determine the balance of power in the Senate.
They've already labeled us as being defund the police. Anything we put forward in terms of the organizational structure to change policing, which I promise you will occur, promise you. Just think to yourself and give me advice whether we should do that before January 5th, because that's how they beat the living hell out of us across the country, saying that we're talking about defunding the police. We're not. We're talking about holding them accountable.
Meanwhile, President-elect Biden has tapped Susan Rice to be director of the White House Domestic Policy Council. Rice served as U.S. ambassador to the United Nations and national security advisor under President Obama. Critics called out the pick over Rice's inexperience with domestic policy, as well as her role supporting U.S. military actions that caused devastation in Syria and Libya under President Obama. The position does not require Senate confirmation. In related news, Biden's picked another Obama administration alum, former White House chief of staff Dennis McDonough, to lead the Department of Veteran Affairs. Veterans groups expressed disappointment Biden did not pick a veteran to serve in the role. Jeremy Butler of Iraq and Afghanistan Veterans of America told the Washington Post, quote, he's starting in a position of public deficit because of who he is not. Meanwhile, a watchdog report has found current VA Secretary Robert Wilkie and other senior leaders discredited and smeared a House aide who reported a sexual assault at work. Andrea Goldstein, who issued the complaint, said in a statement, quote, the millions of women and men who've experienced or witnessed sexual violence in the military recognized Secretary Wilkie's actions as horrifyingly familiar, refused to take or enforce accountability, blame, shame, and make the victim the problem. A majority of House Republicans have backed Trump's last-ditch effort to overturn the election results by asking the Supreme Court to toss millions of votes in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, and Georgia, all states that voted for Biden, as part of a Texas-led lawsuit. 106 House Republicans signed on to a legal brief Thursday in support of the lawsuit. State Department Inspector General Matthew Climo stepped down Thursday after Mike Pompeo lashed out at a report in which the watchdog found Pompeo's wife did not secure proper approval for documentation for trips she took with her husband as part of the official State Department business. The investigation, however, cleared Susan Pompeo of violating federal ethics rules. The Supreme Court ruled unanimously Thursday three Muslim men who were placed on a no-fly list can sue government officials for damages. The plaintiffs say the FBI placed them on the no-fly list as retaliation for refusing to spy on their communities, which prevented them from making trips to Pakistan, Afghanistan, and Yemen, harming their reputations and their jobs. The latest acting head of Immigration and Customs Enforcement, Tony Pham, is stepping down after less than 5 months in the role. During his tenure, he oversaw the installation of billboards on Pennsylvania highways with the faces of immigrants who, according to ICE, quote, pose a public safety threat. And in Indiana, officials at the federal prison in Terre Haute injected 40-year-old condemned prisoner Brandon Bernard with a lethal dose of pentobarbital Thursday evening. The execution on International Human Rights Day came after the Supreme Court declined to intervene to halt the ninth execution of a federal prisoner this year. The Trump administration plans to kill four more prisoners before Joe Biden's inauguration. To see our coverage of Brandon Bernard's case and Trump's lame duck executions, the first time in 130 years, you can visit our website, democracynow.org. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman.
Oui, alors, les centres d'éducation populaire, comme le Carrefour, constituent des milieux exemplaires, à mon avis, en fait, de prévention, mais aussi, en fait, de traitement contre les troubles ou les conditions de santé mentale. Mais pourquoi? Parce que, dans le fond, leur action crée des puissants facteurs de protection. C'est des milieux qui agissent vraiment sur les déterminants de la santé mentale. Dans les centres d'éducation populaire, comme le Carrefour, c'est des milieux où est-ce que les gens se regroupent. Ils se regroupent autour de conditions communes et ils se reconnaissent les uns dans les autres. Ils ont donc le sentiment de ne pas être seuls à vivre ce qui les accable. Donc déjà là, le stigma est un petit peu enlevé, si on veut. Puis d'autre part, ben c'est des lieux de socialisation. Donc ça leur permet vraiment de briser l'isolement. C'est des milieux aussi où est-ce que en se regroupant, ils réussissent à... ils font partie d'une dynamique sociale dans laquelle chacun développe ses propres rôles psychosociaux. Ils découvrent qu'ils ont des habiletés, des aptitudes, ce qui est très valorisant pour eux. Ça a un bel impact positif sur leur estime d'eux-mêmes. Donc, tout ça pour dire que c'est des milieux qui vraiment aident les gens à sortir de leur isolement et à agir sur les déterminants d'une santé mentale positive.
Bonjour, bienvenue à notre 5e épisode de notre balado Changer la vie. Alors, la personne qu'on vient d'entendre parler est Lydia Bertrand-Sibert. Lydia est travailleuse sociale au sein de l'équipe Adulte Santé Mentale à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Lydia travaille là depuis un an et demi, mais elle a aussi 15 ans d'expérience au sein du CEDA, qui est un organisme qui fait aussi de l'éducation populaire dans le sud-ouest de Montréal. Donc, Lydia connaît très, très bien le milieu communautaire, connaît aussi très bien ce que c'est que l'éducation populaire. Alors, j'avais contacté la clinique communautaire à la base parce que je voulais avoir le point de vue d'une travailleuse sociale ou une travailleuse communautaire qui nous parlera un peu plus du lien entre participation dans un milieu communautaire, implication dans un milieu communautaire et santé mentale. Parce qu'on entend souvent nos participants nous dire à quel point ça leur fait du bien de venir au Carrefour, à quel point ils s'y sentent bien aussi et à quel point on est comme une deuxième famille pour eux. Donc, j'avais envie de creuser un peu plus pour comprendre c'est quoi le lien, c'est quoi vraiment les impacts, à quel point on peut améliorer les conditions de vie, à quel point on contribue à préserver une bonne santé mentale aussi chez nos participants. Donc, c'est de ça que Lydia nous parlait un petit peu dans l'introduction. Alors, aujourd'hui, je discute justement de ce lien-là avec mon invitée Elisa Tremblay. Elisa est participante du Carrefour depuis 2 ans. À l'époque, elle venait tout juste d'emménager dans le quartier. Rapidement, elle s'était orientée vers les organismes communautaires parce que c'était des milieux qu'elle connaissait déjà. Elle savait que c'était des lieux d'accueil et que c'était des bonnes portes d'entrée dans le fond pour apprendre, pour rencontrer des gens et pour s'intégrer dans un nouveau lieu aussi, dans un nouveau quartier. Elisa a eu une vie pas facile, a passé à travers plusieurs épreuves difficiles dans sa vie. Elle nous les partage de façon très ouverte et très touchante également et fait preuve là, de beaucoup de résilience. Elle nous explique justement le lien entre les organismes communautaires, l'implication communautaire et l'amélioration des conditions de vie et la santé mentale. Elle nous raconte un peu comment son implication dans les milieux communautaires l'a aidé à cheminer, l'a accompagné, dans le fond, à surmonter toutes ces difficultés-là, contribuer à l'amélioration de ses conditions de vie et à sa santé mentale. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elisa Tremblay, comment tu vas?
Moi, ça va bien, et toi?
Ça va très bien, merci.
Good.
Merci d'avoir accepté notre entrevue pour notre 5e épisode, donc le dernier épisode de cet été. Tout d'abord, Elisa, j'ai envie de te demander comment tu as vécu les dernières semaines, les derniers mois de confinement, puis comment tu as vécu ça, la situation dans laquelle on est présentement.
Ben honnêtement, au départ, on a trouvé ça un peu, on était comme surpris, un peu mélangés. Puis là, on a commencé un peu à s'isoler dans la maison. On était plus comme désorientés aussi dans nos horaires, notre routine. Fait que moi, j'avais beaucoup d'activités dans le communautaire, des traitements médicaux, mes enfants allaient à l'école, blablabla. Puis là, ben, on s'est mis à surtout mon plus jeune, lui, à part du COVID, puis il ne veut pas jouer dehors. Tu sais, plein de trucs comme ça là, qui ont fait que... moi, personnellement, j'ai trouvé ça difficile parce que je fréquentais des organismes, puis c'est là que j'avais ma vie sociale, puis un peu mes activités là, dans le quartier. Puis ça, j'ai trouvé ça très difficile, moi, personnellement. Puis les enfants ne pas voir leurs amis, puis tout ça, c'était pas évident là, pour eux non plus. Ouais.
Ça va mieux maintenant, tranquillement, vous reprenez...
On a remonté à la côte, puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas. Moi, j'écoute pas les nouvelles devant les enfants.
Okay.
Jamais. Fait qu'ils n'entendent pas ces trucs-là, à part s'il y a des choses que je dois leur dire, qu'ils doivent savoir, point à la ligne.
Okay.
Fait qu'on n'est pas bombardés de médias avec du sensationnalisme puis des trucs qu'on n'a vraiment pas besoin d'entendre. Fait que on a focusé sur des nouvelles activités dans la maison. Ils m'ont aidé à faire de la cuisine, toutes sortes de trucs... au fil des semaines, mais là, ça va bien. Mon fils, il recommence à jouer dehors.
Il recommence l'école aussi cette semaine.
Il recommence l'école, il change d'école, il commence jeudi matin. Ma fille commence vendredi matin une nouvelle école aussi. Fait que là, on est plus dans les préparatifs là, depuis un bon deux semaines là, de la rentrée.
Super, excellent. Ouais. Tranquillement, pas vite. Super. Ben, commençons l'entrevue, Elisa. J'avais envie de te parler. Tu es une quand même une nouvelle participante du Carrefour. Ça fait à peu près deux ans que tu fréquentes l'organisme. Je me rappelle quand tu es arrivée au Carrefour, je me rappelle que tu venais tout juste d'emménager quasiment. Et puis rapidement, tu m'avais dit que tu avais commencé à fréquenter des organismes du quartier. Donc rapidement, dans le fond, tu t'es dirigée vers le communautaire. Qu'est-ce qui a fait que rapidement, là, je pense que ça faisait à peine quelques semaines que tu étais dans le quartier. Je pense que tu as emménagé tout seul. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée rapidement là, vers le communautaire puis les organismes comme le Carrefour?
OK, parce que moi, je savais que je voulais revenir dans le Sud-Ouest, ça c'était sûr et certain. Donc, j'ai été deux mois à ce que je dis suite à l'immigration. Ensuite, mes enfants, je n'ai pas perdu la garde légale, mais évidemment, ils ont été placés. J'ai été deux mois hospitalisée, puis ensuite, j'ai fait 11 mois d'hébergement dans les maisons pour femmes et enfants victimes de violences conjugales tout seul, sans mes enfants. Puis là, j'étais en réadapte. Puis là, j'ai ces maisons-là, il y en a la première que j'ai atterri, tu sais pas, en sortant de l'hôpital, j'ai appelé. Puis là, j'ai atterri dans une. Puis après ça, elle, c'était juste un mois. Puis après ça, c'était une autre place. Après, jusqu'à temps que les derniers six mois, j'ai eu la chance de rester dans le même centre d'hébergement. Puis c'est là que j'ai réussi, en plus, c'est qu'avant de sortir de l'hôpital, j'avais décidé comme plan que je voulais avoir une fiducie volontaire pour pas dépenser mes sous, afin de... Parce que vu que j'ai tout perdu, mes meubles, tous nos souvenirs, toutes nos choses, j'avais personne pour faire des déménagements, blablabla. J'avais comme plan j'ai commencé à m'inscrire en gestion financière chez Doris, qui est un centre communautaire aussi pour les femmes en difficulté. At large, il y a plein d'activités gratuites, plein de services. Puis moi, c'était pour pas dépenser mes sous, parce que comme je vivais d'une façon extrêmement difficile, j'ai sombré parfois dans l'alcool, puis c'est très mauvais pour moi parce que j'ai une médication aussi. Donc, je savais le dernier six mois à la maison du régional, la dernière où je suis allée avant d'atterrir dans un HLM à Pointe-Saint-Charles, parce que je ne savais pas où j'avais envoyé 38 lettres, 36 coop, un OBNL, puis HLM, j'avais mis juste Sud-Ouest. Je ne voulais pas habiter ailleurs.
Okay.
Là, ben c'est ça, j'ai su en fin septembre, début octobre, que j'avais obtenu un 5,5 HLM. C'est la première fois que j'ai un logement subventionné de ma vie. Là, j'ai quand même eu 47 ans dimanche. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Puis là, ben j'ai atterri au Carrefour, mais c'est-à-dire à Pointe-Saint-Charles. Mais moi, mon objectif en maison d'hébergement, j'avais dit à mes suivis que moi, avec tout le vécu que j'avais, je voulais que ça sorte, puis que j'aimerais travailler éventuellement dans le communautaire. Puis que ma façon de me créer un nouveau réseau, pas dans des bars ou des choses malsaines, c'était de fréquenter des organismes communautaires. Parce que si j'avais pas eu ça dans ma vie, mes enfants aussi, on serait dans la rue totalement. Puis on n'aurait pas accès à la nourriture, les banques alimentaires, etc. Puis j'ai réussi à ramasser 2 800 $ dans les six derniers mois avec juste un chèque d'aide sociale. Puis j'ai tout réacheté mes lettres, tout ça. Puis j'avais dit aux intervenantes, moi, en tout cas, j'ai peur de ne pas pouvoir travailler dans le communautaire parce que j'ai pas des diplômes pour ça. Mais j'ai dit, au moins, moi, je veux faire du bénévolat là-dedans pour rencontrer des gens, créer des liens tranquillement, puis pas être isolé, parce que moi, c'était mon plus grand facteur de risque, l'isolement.
OK. C'est vraiment ce que tu cherchais, là, briser l'isolement, tisser des liens rapidement, t'impliquer dans ta communauté pour pas, pas replonger dans un endroit là, plus sombre.
Oui, je voulais vraiment pas reprendre ces choses-là.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Au début, je me rappelle, tu venais à l'accueil, tu venais jaser, tu venais un peu aux ordi, tu nous as découvert tranquillement, là.
Oui, parce que le premier organisme que j'ai fréquenté à ce point de ça, j'étais Action Santé. Mm-hmm. C'était un centre de jour santé mentale. Puis moi, c'est, je parlais avec une fille, j'ai Doris, là, deux femmes, puis là, j'ai dit, je veux faire du bénévolat. Puis il y en a une qui a ouvert, j'attendais pour aller à mon rendez-vous pour mes sous. Puis elle me dit, va à Action Santé, à Pointe-Saint-Charles, moi, je suis là, je suis bénévole, tu peux être bénévole, blablabla. Donc, je suis allée là. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé, j'ai proposé de faire de la bouffe pour eux. Mm-hmm. Avec le Moisson Montréal. Puis là, au fil du temps, ben, l'intervenante là-bas m'avait dit un peu les autres noms d'organismes, puis des femmes aussi présentes. Fait que là, j'avais décidé d'aller voir le Carrefour, parce que je n'avais entendu parler. Mm-hmm. Puis dès la première fois où je rentrais là, j'étais gênée un peu, là, mais c'est l'accueil était tellement chaleureux, puis je me sentais comme déjà chez nous quasiment. J'avais une petite gêne, là, évidemment, mais je veux dire, ça a été très rapide que moi. J'ai fréquenté mon organisme préféré. Mm. Puis c'est là que même à un moment donné, pour briser l'isolement, j'avais pas assez de soucis pour Internet puis le cadre. Mm-hmm. Fait que j'avais pas bien de façon de communiquer. Là. Fait que là, je venais, je savais qu'il y avait l'ordi, fait que je pouvais au moins répondre à mes courriels, tu sais, être moins isolée. Mais j'ai commencé à parler avec des participants qui allaient là pour ça aussi. Puis là, à un moment donné, j'étais là un soir par hasard, puis il y avait un atelier de chorale qui commençait, puis je le savais pas. Puis là, ben moi, j'ai fait de la musique classique, là, quand même. J'étais au conservatoire très jeune, puis de musique de Montréal. Mm-hmm. Puis là, quand j'ai entendu le gars parler, puis expliquer les notes, puis tout ça, comment ça, un peu de théorie musicale de base, là, je l'ai trouvé tellement bon. Puis la gang qui était là, il y en avait quelques-uns que j'avais déjà vus. Fait que là, il voyait que j'écoutais, puis je regardais, fait que là, il disait, tu veux qu'il vienne? Emmanuel, il me dit ça. Ouais. J'ai dit, OK. Fait que c'est comme ça que je rentre. C'est des hasards, des beaux hasards, en fait.
Ouais.
Et moi, la chorale, là, ça m'a tellement aidée, parce que moi, c'est libérateur pour moi de chanter.
Oui.
C'est carrément une thérapie pour moi.
Mais oui, à travers l'art. Je pense, en plus, la chorale, vous êtes tellement un beau groupe. Moi, j'ai eu la chance de visiter votre atelier quand on faisait l'évaluation de manuel, puis on revenait pas de l'énergie qu'il y avait au sein de votre groupe. Oui. Vraiment, ça m'a marqué, puis je m'en rappelle encore, puis je le revis. C'était tellement une énergie forte, là. Vous sembliez tellement unis comme groupe, puis les gens étaient tellement excités, puis c'était magique, là, mais c'était vraiment quelque chose à laquelle je m'attendais pas. T'sais, je m'attendais peut-être, en tout cas, moi, dans ma tête, la musique, le chant, c'est comme peut-être plus rigide un peu, mais pas du tout. T'sais, c'est le plaisir. Non. La fraternité avant, puis l'entraide aussi, j'ai trouvé. Les gens disaient, si quelqu'un a de la misère, il n'y a pas de problème. On n'est pas des professionnels ici, on est ici pour apprendre ensemble.
Tout à fait, puis on a appris à connaître nos voix. T'sais, c'est sûr, moi, j'ai fait de la chorale toute ma jeunesse, obligatoirement à l'école primaire, ensuite au cégep, j'en ai fait par moi-même de la chorale dans une église avec un groupe, là. Puis moi, je trouve ça le fun parce que c'est plus informel, justement. Puis, tu sais, on est tous disparates. Là. C'est des gens de différents âges, des hommes, des femmes, de passé. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens dans la chorale, là, que j'ai des liens avec eux sur Facebook. Puis là, on tranquillement les numéros de téléphone. Puis là, ben souvent, je rencontre un monsieur que j'adore qui est dans la chorale sur la rue, on jase. Mm-hmm. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me fais apprécier et j'apprécie les participantes également.
Qu'est-ce qui te fait du bien à travers ça? Est-ce que c'était vraiment comme de tisser des liens, faire partie d'un groupe aussi, construire quelque chose ensemble? C'est quoi que tu ressortirais? C'est de dire que ça me fait du bien. Est-ce que c'est tout ça ou est-ce que c'est...
Il y a plusieurs choses. En fait, il y avait aussi qu'on est obligé. On a comme une discussion sociale là, au départ. Oui,
l'animation sociale.
Oui, puis il y avait des thèmes qui me touchaient, moi, puis qui touchaient d'autres participants. Puis à travers ces thèmes-là, on apprenait à se connaître, on parlait de nos valeurs, parler de nous, comment on voit la vie, etc., sur différentes facettes, là, mettons, dépendamment du sujet.
Ouais.
Puis après ça, on chantait, puis quand on a commencé, c'était le fun parce qu'Emmanuel, il proposait des trucs à chanter, mais nous, on avait le droit comme participants de proposer. C'est quasiment tout le monde a eu, tout le monde a eu une ou deux chansons parmi le répertoire là qui avait choisi. Fait que c'est le fun, puis ça fait connaître des nouvelles chansons. Puis moi, j'ai bien aimé faire le concert. Au début, on a fait l'été après une session, on a fait au Festipointe sur le stage.
Ouais.
Puis aussi, on avait fait pour la Manifête là.
C'était magnifique.
On avait chanté pour la première fois dehors, derrière le carrefour.
Oui.
Ça, j'avais adoré. J'étais gênée. Là, ça a comme un peu brisé ma gêne là, de faire ces deux expositions en chantant toute la gang.
Ouais.
Puis ce que j'ai adoré, c'est à Noël, à la fête du carrefour qui était au gym. Là. Mm-hmm. On a fait un concert. Puis après ça, il y a une participante qui travaille au Carrefour, qui est venu me voir avec les larmes aux yeux, puis qui me dit waouh, ça m'a tellement touché ce que vous avez fait comme chant. Oh. Dont une pièce que moi j'avais choisie. Elle m'avait remercié, puis elle m'avait fait un gros câlin. Puis j'ai trouvé ça bien valorisant. Ça m'a fait bien du bien dans mon cœur.
Des beaux moments magiques. Beaucoup de gens qui... je me rappelle d'un témoignage d'un participant qui avait aussi eu une épreuve difficile dans sa vie, un gros accident, perte d'emploi, tout ça, réapprendre un peu à vivre avec son handicap. Puis oui. Il parlait à quel point c'était l'art au Carrefour, en fait, qu'il avait revalorisé comme être humain, tu sais, qu'il se rendait compte qu'avec ses mains, il était capable de faire quelque chose. Il était capable de faire un pot en argile, il était capable de travailler avec ses mains. T'sais, c'est à travers l'artisanat, dans le fond, qu'il a après se revalorisé comme personne, puis à se rendre compte qu'il était encore capable d'accomplir des choses. Fait que, c'est un peu comme à travers la chorale, comme tu dis. C'est juste chanter, mais quand le monde vient te dire « ça m'a touché », c'est fantastique. Ouais. J'imagine que ça revalorise à travers ça, puis à travers l'artisanat et l'art, c'est encore plus le fun.
Oui, puis moi, je crois en l'art-thérapie vraiment à large pour n'importe quelle classe de genre, de sexe, whatever, d'origine, parce que même par hasard, un autre truc que j'ai eu à Pointe-Saint-Charles en fréquentant le Centre des femmes, que j'avais entendu dire, puis je suis allée fréquenter aussi.
Madame prend congé, oui.
Madame prend congé, que j'adore. Il y a l'organisatrice communautaire qui m'a fait visiter. La première fois que je suis rentrée, au complet, elle m'a tout expliqué. Puis après ça, je me suis confiée à elle. J'ai dit, peux-tu parler quelques minutes? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Puis là, j'ai expliqué ce que je vivais. Puis j'ai dit que, tu sais, j'avais vécu de la violence. Là, j'ai des vagues, puis j'ai toutes sortes de traitements. Puis tu sais, c'est dur, puis blablabla. J'ai pas mes enfants, j'ai pas perdu la garde. Mais tu sais, c'est tout. Mm-hmm. J'ai été confiée à elle. Spontanément, elle m'a donné du temps, elle aussi. Puis là, finalement, peu de temps après, quand je suis revenue, peut-être une semaine ou deux après, elle m'a dit, Lisa, je voudrais te parler. Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Puis là, moi, j'avais tellement dû à des nouvelles, mauvaises nouvelles dans les dernières années avant ça. Mm-hmm. Fait que là, elle me dit, écoute, elle dit, j'ai eu un lien par Internet, qu'il y a un programme d'art-thérapie gratuit qui dure 3 mois, qui serait éligible, mais il faut appeler tout de suite. C'est un projet pilote du gouvernement.
Okay.
Fait que là, je suis allée là. Tout de suite, quand elle me l'a dit, j'ai appelé immédiatement la responsable, on s'est rejoint, j'ai été inscrite. Puis là, j'ai fait de l'art-thérapie au CAP. Là. C'est pas dans Pointe-Saint-Charles, là. C'est Saint-Laurent puis Saint-Joseph. Eux, ils font de l'art-thérapie à large. Il y en a qui sont à temps plein, justement pour des raisons de santé mentale. Puis j'ai adoré cet organisme-là, puis ça m'a obligée de parler en groupe, de faire des choses. On avait le jeudi soir et le samedi. Mm-hmm. Dans le jour, on avait 6 heures par semaine. J'ai pas manqué une seule fois.
C'est fantastique, c'est super.
Ouais, vraiment.
Tu disais, ça m'a appris à apprendre à parler en groupe et tout ça, à travailler en groupe aussi. Là, je sais que tu fais partie du conseil d'administration du Carrefour depuis quelques mois. C'est-tu depuis la dernière Assemblée générale seulement ou depuis l'année dernière?
Oui, depuis la dernière Assemblée générale annuelle en novembre l'an dernier.
Ça, comment tu sens cette implication-là? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te valorise, qui t'a redonné du pouvoir un peu? T'sais, j'imagine que c'est quand même intéressant de voir que ton opinion est écoutée. Puis le conseil d'administration aussi, il faut le savoir, c'est tous des participants. Il y a 2 employés qui y siègent, plus la coordination. Mais sinon, c'est tous des participants du Carrefour. Là. Fait que ça doit être assez unique aussi comme expérience. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, ben moi, écoutez, moi là, ce qui m'a vraiment fait plaisir au départ, c'est que moi, je m'étais présentée sans attendre. Je me suis dit, moi, je vais me présenter. Si je passe, je passe. Si je passe pas, j'aurais essayé. Ce que j'étais contente, c'était la première Assemblée générale annuelle dont j'ai fait partie au Carrefour. J'ai trouvé ça super intéressant. Tous les chiffres, les luttes, etc., les résultats qui étaient énumérés par le cordeau, j'ai trouvé ça bien fun. On était 80, genre, 80 quelques. Puis ma fille est venue avec moi parce qu'elle, elle n'en revient pas comment le Carrefour, ça m'a aidé. Puis elle est venue à quelques reprises, puis ma fille, elle aime ou elle n'aime pas. Puis là, ben des fois, j'étais trop fatiguée pour voir la chorale. Même, elle me dit, non, tu y vas, maman, tu y vas.
Elle voyait que ça te faisait du bien, là.
Oui, vraiment. Wow. Puis elle voyait que ça me faisait du bien. Ma fille, elle a quand même 15 ans, elle connaît sa mère.
Ouais.
Fait que là, je me suis présentée, on devait parler au micro en avant, ça, j'ai dit ça, mais je l'ai fait, puis j'avais préparé aucun texte. Je me suis dit, je vais y aller avec comment je me sens, puis qu'est-ce que ça va sortir. c'est ce que j'ai fait, puis ma fille était là, puis c'était bien important pour moi. J'ai trouvé ça extrêmement valorisant pour moi devant ma fille. Mm-hmm. Puis après ça, ben, il y a eu le vote, puis moi, j'ai été nommée en dernier. Fait que j'attendais, puis j'étais comme assise sur ma chaise, toute stressée, comme. Puis là, il me dit, quand il a nommé mon nom, là, j'ai regardé ma fille, elle m'a fait un gros sourire, puis après ça, elle m'a pris dans ses bras, puis là, j'étais vraiment, vraiment... J'en parle, puis je suis encore émue.
Super.
Mais c'est une autre... Au début, c'est par hasard, parce que j'avais vu CA. J'ai été élue, j'étais vraiment contente, parce que ça me permet de connaître le rouage de tout ce qui se passe, tu sais, comment c'est organisé le communautaire au Québec, à Montréal, tu sais. Ça me fait
ouais, beaucoup d'apprentissage sur la gestion là, de l'organisme
oui,
aussi.
Oui, puis j'ai trouvé qu'il y a des anciens et on est comme deux nouvelles. Mm-hmm. Puis je me sens très respectée par tout le monde. Puis tu sais, moi, ça m'a donné... Parce que moi, quand j'étais plus jeune, puis ça, là, à l'université aussi, tout ça, j'avais pas peur de parler. Ça, j'avais perdu cette force-là avec les années de difficultés, etc.
Ouais.
Puis là, ben, je suis capable en groupe, puis je suis capable de dire mon opinion, puis je respecte l'opinion des autres. Puis tu sais, c'est... Mm-hmm. Tu sais, des fois, t'es pas d'accord, puis là, c'est long, la personne en parle, mais tu sais, ça me dérange pas parce que, au contraire, moi, ça fait que j'apprends à respecter mon opinion, l'affirmer en laissant les autres faire la même chose. Fait que je trouve que c'est un super bel apprentissage humain également.
C'est fantastique. Puis c'est ça l'éducation populaire aussi. T'sais, on offre des ateliers,
ouais,
de s'impliquer dans un CA, mais dans le fond, c'est tous des moyens de faire de l'éduc-pop, t'sais, prendre la parole, parler au micro comme tu l'as fait, travailler en groupe, t'sais, oui, reprendre du pouvoir sur sa vie, en fait, pour améliorer ses
exactement
conditions de vie. T'sais, puis je pense que c'est quelque chose que tu as vraiment fait au courant des derniers mois aussi. T'sais. Puis dire, oui, hey, ma parole, elle a de la valeur, puis t'sais, je vais foncer, je vais de l'avant, puis t'sais, d'améliorer nos situations, nos conditions de vie pour nous puis autour
oui
de nous aussi.
Exactement. Puis je peux vous dire même là que moi, personnellement, là, j'ai un suivi pour mes problèmes de dépendance depuis 2008. Avant, ça s'appelait Dollar Cormier. Maintenant, c'est le CRDM, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal.
Okay.
La personne qui me suit in and out depuis 2008, qui est une spécialiste là-dedans, elle m'a dit « ça fait des années que je ne t'ai pas vu aussi bien que toi, Elisa. » Puis mon médecin de famille, la même chose, qui me suit depuis 2004. À vous dire à quel point...
Ouais.
Ma fréquentation, mon bénévolat, etc., dans les organismes communautaires de Pointe-Saint-Charles. Puis maintenant, j'ai commencé à la petite Bourgogne un peu parce que je suis
ouais, rentrée t'as déménagé
en ce coin-là. Ouais. Mais j'adore le communautaire. Puis là, j'ai été acceptée par Emploi Québec pour un programme Passe Action, justement pour faire des stages, apprendre à travailler comme à l'accueil d'un centre communautaire.
C'est super.
Mais avec le COVID, ça a été suspendu.
Ouais,
mais
ouais,
là, je vais pouvoir reprendre, je ne sais pas quand. Là, j'attends qu'on me rappelle pour ça. Là. Fait que moi, ça fait des années que je n'ai pas été sur le marché du travail. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres sans aller trop rapidement pour ne pas s'épuiser. Parce que je suis quand même mère de famille monoparentale sans pension alimentaire, avec l'aide sociale, puis l'allocation, tu sais pas. Ben, j'ai la chance d'avoir un beau logement subventionné, mais ça vient de mes efforts, mes démarches également.
Ah oh oui, c'est sûr. On a pu constater tous tes efforts aussi, puis ton avancement à distance. Et je pense que même l'Elisa qui est rentrée il y a 2 ans, puis l'Elisa qui vient maintenant, puis qui partit
oh
au Carrefour est différente, je pense aussi.
Complètement.
Mais on t'apprécie beaucoup, Elisa. T'es une belle richesse. C'est une belle richesse d'avoir au Carrefour. Je pense qu'on apprécie ton franc-parler, ta fougue, ton énergie.
Mm-hmm.
L'injustice, tu la dénonces et fort aussi. Fait que je pense que tu es quelqu'un
oui
qui apporte beaucoup à notre organisme également, puis aux luttes
ben,
auxquelles
merci
tu participes, au CA aussi également. Fait que,
au comité MOB aussi,
ouais,
mobilisation avec Alex.
Et... Bridge Bonaventure, oui,
ouais,
qu'on espère reprendre
ouais
là, bientôt. On va voir
oui
où s'en est rendu. Mais,
oui.
Ben, écoute, Elisa,
moi, juste en terminant, là, je veux juste dire que pour moi et mes deux enfants, si on n'avait pas eu le communautaire dans nos vies, je ne sais pas où on serait rendu, mais
ah,
ça irait pas bien, ça, c'est certain.
Mm-hmm.
Puis, à force de s'impliquer puis de rencontrer des nouvelles personnes,
mm-hmm,
moi, je crois que tout le monde est égal. Tout le monde est égaux ici-bas, puis on est tous là pour apprendre. Donc, moi, je crois
mm-hmm
à l'entraide. Je crois aux échanges de services aussi.
Ah oui, totalement. Puis,
ouais,
ça, c'est sûr qu'on sait que si le communautaire disparaissait d'un jour à l'autre, les coûts au système de la santé exploseraient parce qu'on compense
oui
beaucoup, beaucoup de manques de services, en fait, sociaux et de
beaucoup
santé
trop
même. On contribue à l'amélioration de la santé des gens
tout
aussi. On prévient, mais on contribue vraiment à l'amélioration des conditions de vie puis de la santé
oui
physique et mentale, je pense, des gens.
Les deux.
Ça, c'est important. Et pas juste le Carrefour, en fait, tous les groupes communautaires qui travaillent très, très fort. On l'a vu pendant cette pandémie aussi, tu sais, le fait qu'on a gardé lien avec nos participants, les gens étaient tellement remerciés, on voyait que ça leur faisait vraiment du bien, tu sais, alors qu'il y avait de la détresse, du stress, de l'angoisse un peu, puis de l'isolement. Ça a fait une différence, là, la présence des organismes. Fait que d'un côté, c'est pas mauvais, là, ça a renforcé l'importance, dans le fond, de notre existence. Fait que ça,
ben, moi, j'ai quand même aussi participé à l'Intercept, une réunion, puis j'ai appris plein de trucs là. Puis aussi pour la marche mondiale des femmes avec Mme Prend-Congé. Fait que je m'étais dit, j'avais dit à ma fille, regarde bien là, avec le COVID. Le gouvernement va demander aux communautaires de pallier au lieu de. Il coupe, puis il ne veut pas faire des beaux. Tu sais, je veux dire. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Mais le beau côté de la chose, c'est qu'on dirait que là, l'entraide est comme revenue. Tu sais, c'est pas juste le signe de pierre. Moi, je crois que on est dans un capitalisme sauvage, puis ça ne peut plus continuer comme ça. D'après moi.
Puis aussi, tu sais, en lien avec la santé mentale, j'ai eu le bilan des activités d'été il y a quelques jours avec les participantes qui ont participé aux activités d'été en ligne majoritairement. On sait que ça exclut beaucoup de gens, mais il y a quand même quelques participants qui ont pu en profiter. Puis une participante disait, tu sais, il faut commencer à parler davantage de santé mentale. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas assez au Carrefour, on n'en parle pas assez dans notre quotidien. On met toujours ça loin, comme si ça appartient à ceux qui ont vraiment des graves problèmes, qui ont besoin de médication. Exactement. Puis là, avec le confinement, puis avec la crise actuelle, on s'est rendu compte, et ma santé mentale est un peu plus fragile que ce que je pensais. Moi aussi, je peux vivre l'angoisse, moi aussi, je peux vivre des crises de panique, moi aussi, je peux vivre la détresse, de la peine, tu sais, puis tout ça. Fait qu'elle dit, on a comme été confrontés tout le monde en même temps à ça. Fait que ça l'a réveillé un peu les gens, puis dirait, c'est important d'en parler, puis de prêter l'attention aussi à ça.
Oui, parce que la santé mentale, c'est trop tabou au Québec.
Oui.
Et à part ça, je crois, les statistiques, c'est une personne sur cinq, je crois maintenant, qui a fait au moins une dépression majeure dans ma vie. Moi, je peux vous dire que j'en ai fait plus que cinq dépressions majeures. Puis je suis fragilisée, puis aujourd'hui, j'ai plus honte de dire que oui, j'ai des vulnérabilités, ça fait partie de moi. Puis tout le monde a des forces et faiblesses. Ça sert à rien de cacher ça, parce que au contraire, c'est comme c'est ton physique, c'est ton corps. La même chose que de se blesser un genou ou whatever. Là.
Exactement, exactement. C'est une partie du corps comme une autre, le cerveau, puis on est un tout. C'est
trop tabou encore.
Oui, oui. Ben justement, à l'automne, on espère pouvoir avoir des petits cafés rencontres où on va davantage aborder la santé mentale. C'était une demande de nos participants. Donc, j'ai été à l'écoute, puis on espère pouvoir aborder le sujet là, plus souvent et se donner du temps aussi pour en parler. Ben, moi aussi.
Tout à fait.
J'ai hâte de travailler avec vous là-dessus. Hey, merci beaucoup, Elisa. Merci de tes partages. Merci pour ton authenticité. Merci pour tes partages intimes, évidemment. Là. Puis félicitations. Félicitations pour tout ce que tu as accompli au courant des dernières années. Comme je te disais, c'est une belle richesse de t'avoir à nos côtés puis de travailler avec toi. Fait que merci beaucoup. Puis je te souhaite bonne chance. Je te souhaite vraiment d'être engagée dans un groupe communautaire puis de travailler dans ce milieu-là que tu aimes tant.
Merci. Merci beaucoup. Puis moi, je vous remercie. Puis je vous souhaite une bonne continuité. Puis j'ai hâte de reprendre les activités, possiblement en octobre.
Oui, on vous donne des nouvelles. Puis on annoncera les dates dès que possible. Puis on a hâte de te revoir aussi en personne. Ça, c'est sûr.
Puis oui, moi aussi. Puis vous êtes extraordinaire. Puis changez pas, on a besoin de vous.
Merci beaucoup, Elisa Tremblay. Merci.
Ça m'a fait un grand plaisir, Tania. Bonne fin de journée.
Bye.
Bye.
Alors, c'est déjà tout pour notre cinquième épisode. Restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. C'est aussi ici que se termine notre petite série de balados pour cet été. Le but de ces balados était vraiment de faire connaître le Carrefour, qui on est, ce qu'on fait, c'est quoi notre mission, c'est quoi l'éducation populaire, et aussi rappeler l'importance de l'existence du Carrefour à Pointe-Saint-Charles, même 50 ans après notre création. Donc, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous en avez appris sur le Carrefour et sur le milieu communautaire en général aussi. Les balados demeurent disponibles sur notre site web et sur notre plateforme SoundCloud. On vous invite à les partager et on vous invite aussi à venir découvrir le Carrefour. On est encore fermé. Il y a encore des rénovations dans la bâtisse. Par contre, on espère pouvoir ouvrir à la mi-octobre. Donc, venez nous visiter, venez franchir la porte, venez poser vos questions, venez découvrir ce qu'on fait. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à tous nos participants qui ont témoigné, qui ont partagé leur récit. Ce fut extrêmement agréable de travailler avec eux pour les balados. Merci à tous ceux qui ont collaboré, tous ceux et celles qui ont collaboré aussi au balado. Et finalement, un gros merci à Jack Jack est animateur informatique au Carrefour. C'est aussi notre technicien pour ses balados. Donc, un gros merci à mon collègue. Donc, voilà, on se laisse sur un texte de Jocelyne Bourgeois, qui est participante au Carrefour depuis plusieurs années également. Et j'avais envie d'avoir le témoignage de Jocelyne dans le cadre du balado aujourd'hui. Et finalement, elle est arrivée avec un très joli texte. Donc, je vous le partage comme mot de la fin. Merci beaucoup et à très bientôt.
Dans un monde où tout va si vite, argent, performance et compétition sont de mise, j'ai découvert un endroit dans mon quartier où l'on peut enfin prendre une pause de tout ceci. Au Carrefour, l'ouverture à la différence, l'entraide, l'intégration au milieu de vie, un support et une écoute pour tous, eh bien, voilà. D'un coup de baguette magique venant du cœur, argent, performance et compétition n'existent plus. C'est dans un monde comme ceci que je veux vivre. C'est effectivement là que je me sens de beaucoup mieux et plus heureuse.
Tandis que nous poursuivons la lutte contre la propagation de la COVID-19, de nouveaux programmes de soutien sont en place pour les personnes qui en ont besoin, notamment un régime d'assurance-emploi plus fort et plus accessible, ainsi que 3 nouvelles prestations de relance économique. Continuer à soutenir les Canadiens maintenant nous aidera à assurer notre sécurité et à rendre le Canada plus résilient. Consultez canada.ca/le-coronavirus pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de soutien aux revenus. Un message du gouvernement du Canada.
Protéger les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi, avec mon temps libre, je pense me lancer en musique.
François Bellefeuille chante le temps des fêtes avec son masque.
Pour de rencontres familiales, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. On sera en visioconférence, fa-la-la-la-la.
Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio?
Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
Wars create wars, they have lots and they take more from the have-nots. They'll take yours, they make borders, they hate foreigners, they hate life. They take life, they take rights and it ain't right, but they don't play, they don't play fight. Then they play dumb, I can't play nice when they cake and we stay poor. See they snakes, we hate war, we hate war, but they hate peace. So we make war and I make peace, that's a great war we were made for. We were not made to just lay dormant, they stay on top. They pay the cops, they take office, they make laws and then say stop. War just makes war, but then take forces when state forces are lame force. And then they say that they're brave warriors and save yours, but they're fake prophets. They make war cause they profit. They make rockets till all sides and all lines they pop. Watch the masters of war. These fat cats cash in tax free on the backs of the poor masses. Diplomats with a mask of decorum. We warned them, now we're storming the castles. War with them for the horrors they enact. They'll pay for it. We paid more than our fair share and it ain't fair.
COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Red alert. The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited, and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing is impossible. We need to act now. A message from the gouvernement du Québec.
Hey everybody, Derek Seguin here. So we won't be hosting our families for the holidays this year, but let's look on the bright side. Got an aunt with some zany theories? Just mute her on the family video calls. A hippie cousin that bring new wave sludge to Réveillon? Not this year. To protect your family's health and safety, it's important you stay home. and enjoy the peace and quiet.
Put your pants on. Time to shovel the driveway.
Right away, hon. Safe holidays. Let's keep our spirits up.
A message from the gouvernement du Québec.
En raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter indéfiniment notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige